On aimerait tout d'abord vous saluer de la part de notre part déjà. Ah, c'est un petit peu en tremblant qu'on est ici ce matin avec Martine. Et puis aussi de la part de l'église de l'Oasis à Vénissieux qui m'a demandé de vous transmettre ses salutations ainsi que celles du conseil. Et on se réjouit de pouvoir partager ces instants avec vous. On va méditer sur la notion de perdu et trouvé ce matin. Alors, attendez, c'est parti, voilà. On va reprendre un texte qui, pour certains, est bien connu, puis pour d'autres, ça aura peut-être une découverte, ce texte et ses facettes de Luc au chapitre 15. Il y a un ami de notre église, en fait, qui a perdu son iPhone, son téléphone portable, avec toutes ses affaires, toute sa vie dedans. À vous, ça vous est peut-être déjà arrivé de perdre vos clés. Et ça devient vite dramatique, il faut le reconnaître, quoi. C'est un petit peu comme si toute notre vie était dans ces objets. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des incidences pratiques qui sont désagréables, mais finalement, comme ça nous a été partagé dans le temps de louange, où est l'essentiel de notre vie, qu'est-ce qui tient notre vie, quelle est la finalité, et c'est important de s'en souvenir. Quelques mots pour situer ce texte de Luc 15. On est dans une situation un peu tendue entre Jésus, d'un côté, qui était en compagnie de collecteurs d'impôts. Vous savez, c'est les gens qu'on aime bien, surtout en cette période où on doit remplir nos feuilles, n'est-ce pas? Hein, à l'époque, ils n'étaient pas plus aimables que... Non, c'est pas vrai. Il faut toujours se méfier de ce qu'on dit, parce que dans l'auditeur, il peut y avoir justement des gens qui travaillent aux impôts. Et en fait, il y avait Jésus et il y avait ces personnes-là qui côtoyaient. Et le texte qu'on va lire, vous allez entendre, il est question de pécheurs notoires. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais en fait, c'était des gens qui étaient marqués par le péché. Puis de l'autre côté, il y avait les autres, ceux qui le critiquaient de ses mauvaises fréquentations. Les religieux qui le critiquaient de ses mauvaises fréquentations. Et c'est à cause de cela que Jésus va parler de la brebis perdue, qu'il va parler de la drachme perdue, cette pièce d'argent perdue, et qu'il va parler du fils prodigue ou du fils perdu. Alors on va lire ce texte plus particulièrement en rapport avec le fils perdu.
Donc ça se trouve dans Luc 15. D'abord je vais vous lire les deux premiers versets et après je reprendrai la lecture au verset 11. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les interprètes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Plus loin, verset 11. Pardon. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage » celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet ramassa tout ce qui lui appartenait et s'en alla dans un pays lointain. Et là, il gaspilla toute sa fortune en menant grande vie. Et quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs pour garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroupes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se mit en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et il fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, il se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Il lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Et sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela l'un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le garçon lui répondit, « Mais c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais il lui répondit, « Cela fait tant d'années que je te sers. Jamais je ne t'ai désobéi. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées pour lui, tu tues le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, mais tu es constamment avec moi. Et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et puis nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et nous l'avons retrouvé.
C'est intéressant de voir de quelle manière les trois paraboles, ces trois aspects, ces trois facettes de Luc 15 sont étroitement liées. On n'a pas lu la brebis perdue et la drachme perdue. Je fais appel un petit peu à votre mémoire. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a un thème commun. Par exemple, les thèmes de la joie et la notion de perdu et retrouvé. Un autre aspect aussi, c'est qu'il y a une notion de progression sur ces trois textes. Une brebis perdue sur 100, une pièce perdue sur 10 et un fils perdu sur 2. Et l'on pourrait voir cela en fait finalement en pourcentage de perte, pour faire un peu comptable, brebis, pièce et puis un fils. Hein, c'est pas les pertes qu'on a droit en cas de guerre, mais voilà, quoi, c'est une réalité qui est mentionnée comme ça fait un peu, c'est un peu particulier, quoi. Et puis il y a aussi une dimension spirituelle dans ce texte, j'ai trouvé intéressant. On voit dans les versets 7 et dans les versets 10 que ces textes nous parlent de la joie des anges et de Dieu par rapport à ce qui est retrouvé. C'est intéressant, la notion de joie très présente lorsqu'on retrouve quelque chose, que ça soit son iPhone ou que ça soit son fils, quoi. On va donc plus particulièrement relever et regarder cette troisième parabole. Et en fait, finalement, on s'aperçoit qu'il y a trois parcours de vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'aime bien les récits où on entend les étapes qui ont marqué la vie d'une personne. Alors pas des biographies où tout est beau, tout est rose, mais ces récits de vie, ces biographies de vie où on voit les temps forts de l'existence d'une personne marqués par des temps de joie, marqués par des temps de souffrance, et où la personne nous partage ce qu'elle a appris dans les temps de joie et dans les temps de souffrance. J'aime bien connaître ces parcours de vie quand je vais visiter une personne, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, j'aime bien écouter, en fait, lorsqu'une personne me raconte son histoire. Dans le texte que nous venons de lire, il est question d'un père, il est question d'un fils cadet, d'un fils aîné, et il est question aussi de l'absence d'une maman. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais c'est une famille, en fait, où il n'est pas question de femme. Un récit où il n'est pas question de femme. Alors que finalement, Jésus, dans bien des récits, il nous parle des femmes, il les met en avant, il les valorise, là, rien du tout. Il faut quand même savoir que les rabbins, eux, ils évitaient même de prononcer le nom des femmes, tellement que pour eux, ça évoquait toutes sortes de choses, toutes sortes de pensées. Mais Jésus, lui, il les mettait en avant, il les valorisait et il les encourageait. Et finalement, quand on entend ce récit de cette histoire de ce fils, on a une sorte de boucle. J'ai appelé ça la boucle du fils prodigue. Tout d'abord, on s'aperçoit que le fils, il veut sa liberté. L'attitude de cet homme, j'aimerais qu'on en prenne conscience, même si c'est normal qu'il quitte son père, et c'était pas une attitude qui était tout à fait normale. Avant la mort de son père, non seulement le fils veut sa part, mais en plus de ça, si vous êtes attentif au texte, avant de partir, il vend sa part pour ramasser l'argent et pour pouvoir l'utiliser plus tard. Dans le contexte de l'époque, et même dans celui d'aujourd'hui, un tel comportement est assez inattendu. Pourquoi cela? Eh bien, ça vient tout simplement de la part de ce fils à considérer son père comme étant mort. Il l'humilie, son père, il l'humilie devant sûrement les proches, ceux du village, ceux qui l'entourent, et finalement, il n'attend pas que le père soit décédé pour pouvoir être au bénéfice d'un héritage. En plus de ça, j'ai fait une petite recherche. Il paraît que dans le contexte de la Palestine, l'aîné avait droit deux fois plus de biens que les autres enfants. Donc, lorsqu'un père a deux enfants, l'aîné avait droit aux deux tiers de la propriété. Là, le cadet, il exige son héritage tout de suite, ce qui vaut et ce qui équivaut en fait à souhaiter la mort du père. On peut presque dire que le cadet était vraiment plus intéressé par l'argent que par des relations de famille apaisées. Donc, ce cadet, il part de chez son père et il décide de vivre la grande vie. Il gaspille tout l'argent qu'il avait reçu de son père dans un pays païen. Et c'est dans ce sens-là, je ne sais pas si vous saviez la définition du mot, qu'il devient le fils prodigue. Prodigue dans le sens qu'il dépense sans compter, au point même de ne plus rien avoir à la fin. Donc, là, pendant ce temps-là, eh bien, il vit la grande vie, il gaspille tout son argent, et puis après, il y a l'épreuve qui arrive. L'épreuve arrive sous la forme, en quelque sorte, d'une crise économique. C'est un petit peu si les cours de la bourse de l'entreprise qu'il fréquentait avaient craché et puis que lui se retrouve avec plus rien. Là, il essaye de s'en sortir par tous les moyens, allant même jusqu'à garder des porcs. Pour un juif, c'est un petit peu un comble. Il rentre en lui-même. Ça veut dire quoi, il rentre en lui-même? Eh bien, ça veut dire qu'il est au fond du trou. Et c'est intéressant parce que c'est souvent quand on est au fond du trou qu'on commence à réfléchir sur ce qui est l'essentiel. Alors au fond du trou, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ça peut être un problème de santé, la perte d'un emploi, quel est le sens des valeurs, quelles sont les choses qui sont importantes dans notre vie. Et finalement, là, au fond du trou, il prend le temps de réfléchir. Et là, dans son temps de réflexion, une décision est présente au fond de son cœur. Il décide de rentrer, de demander pardon et de demander du travail. Alors vous allez me dire, c'est peut-être purement alimentaire. Quand on a faim, on est prêt à faire tout, peut-être. Mais toujours est-il qu'il y a une prise de conscience vis-à-vis de son père, et je rajoute, il y a une prise de conscience aussi d'ordre spirituel, vis-à-vis de Dieu. Ce que veut dire aussi que dans la pensée de l'évangéliste qui a écrit le récit, il n'y a pas de confusion. Il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension humaine. Il y a en quelque sorte une histoire de famille et il y a la relation avec Dieu. Mais dans les deux cas, la réalité du péché est présente et la réalité de la repentance est présente aussi. Le fils se met en route et il taille la route. Et là, une des choses qui est le plus touchante, on voit ce père. Et ça rejoint un petit peu l'introduction de ce matin, la notion de la patience du père. Le père le voit, court vers lui, le prend dans ses bras. Et pour moi, là est le cœur, finalement, de l'histoire. Le père l'attendait. Il l'attendait. Le texte nous dit, le fils se trouvait à bonne distance et le père l'aperçut. Et il fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. J'aimerais que nous puissions comprendre, et là je m'adresse plus particulièrement à ceux qui sont papas, quel que soit leur âge, ce matin, cet homme, ce père, n'a pas avalé une couleuvre. Il a avalé un boa avec son fils. C'est une histoire de liquidation d'héritage de son vivant. Il y a une attitude humiliante à son égard. Et là, ce père qui l'attendait, essayez de vous imaginer, on n'a pas la durée du temps, de l'attente. Combien de temps la séparation a duré? Mais toujours est-il que le père était là, peut-être sur son pas de porte, à attendre le retour de son fils. Et là, ce riche propriétaire se met à courir. Vous imaginez, la grande robe, remonter la robe, courir. Bon, je sais que dans l'église de Mérin, il y en a beaucoup qui aiment bien faire de la course à pied. J'en fais aussi un peu. pas avec une robe, avec des vêtements adaptés. Lui, il se met à courir parce que, au fond de son cœur, il y avait quelque chose de très important. Il se fout des convenances, il s'en moque, mais il voit son fils et c'est ça qui est sa joie. Il exprime sa joie, il l'embrasse, il y va, il y a l'étreinte, il y a quelque chose qui passe, c'est génial. Et puis après, on voit la suite du texte, il y a le don de la robe, de la bague, des sandales, et en quelque sorte, le fils est réinvesti. Il lui redonne son statut au sein de la famille. Il est rétabli dans l'identité dont il estimait ne plus être digne. Et je me suis posé la question en lisant, en relisant ce texte, je me suis dit, mais finalement, quand il y a une situation qu'on croyait être perdue, qu'on arrive à vivre la réalité des retrouvailles, de la réconciliation, du pardon, on peut mettre tous ces mots-là qui sont, où il y a des similitudes, est-ce qu'on arrive véritablement à éclater de joie, à se réjouir? Alors, est-ce que lorsqu'il y a un baptême dans l'Église, est-ce qu'on se réjouit au point même de ne pas manquer le jour du baptême, d'en faire une priorité, parce que quelqu'un qui était perdu est sauvé? Et le texte nous dit que dans le ciel, les anges se réjouissent. C'est une interpellation. Pourquoi? Parce que le salut, c'est la chose la plus importante qui puisse arriver à un être humain. Une personne qui est sauvée, c'est l'essentiel de sa vie. Il sait où est-ce qu'il va passer son éternité. Ses relations dans son quotidien vont changer. Et il y a des choses merveilleuses qui peuvent se passer à ce moment-là. Il y a de la joie. Mon fils était mort, il est revenu, il était perdu et je l'ai retrouvé. Quel passage, quel verset merveilleux. Et puis par contre, s'il y a la joie des retrouvailles entre ce père et ce fils, il y a l'autre parcours de vie qui croise cette rencontre entre ces deux personnages, le père et le fils qui sont dans la joie, et c'est le parcours du fils aîné, un autre parcours. Le parcours du fils aîné, alors lui, il revient des champs, c'est un travailleur, un besogneux, un laborieux, et là, quand il arrive chez lui, il entend de la musique, il voit les danses, et effectivement, ça adoucit pas son caractère. Hein, il a un peu voilà. D'entendre et de voir ça, c'est pas facile pour lui. On lui explique la cause de la joie, la cause des danses, la cause des réjouissances. Et puis son père, il va le chercher. Il sort de chez lui pour l'accueillir à son tour. Et là, le fils aîné, il déverse son amertume, on l'a entendu. Il dit ses récriminations, il dit qu'il n'a pas été bien traité. Il reproche à son père l'accueil qui était fait au fils cadet et il refuse de le reconnaître comme étant son frère. Vous savez, en tant que père, aucun père ne peut supporter les récriminations qu'on peut faire à l'égard d'un des autres enfants. Et en fait, je pense que ça a finalement dû être pour ce père la double peine. Il y a eu la peine de voir le cadet partir, mais la peine de voir finalement quel était l'état du cœur du fils aîné. Et ça a dû être très très douloureux pour lui. Et vous voyez, on entend les paroles du fils aîné qui dit « Mais lui qui a mangé ta fortune avec des prostituées !» Vous avez remarqué? Comment est-ce qu'il l'a su? Blablabla, la rumeur, ça a peut-être lui été rapporté par les voyageurs, par ceux qui circulaient. On lui rapporte, vous savez, votre fils, il est avec des gens, c'est pas très recommandable, etc. Et lui, qu'est-ce que fait le fils aîné? Plutôt que d'atténuer déjà la douleur du père, il fait rien de mieux que d'en rajouter encore une couche, quoi. Et pourtant, ce père ne s'énerve pas, s'irrite pas. Quel exemple pour moi. Lisse de caractère. Non, plutôt, un amour parfait. Un amour inconditionnel. Il demande à son fils aîné de participer à cette fête. Alors c'est vrai, il aurait pu dire, écoute, t'es pas content, tu restes dehors, tu te débrouilles, quoi. Non. Et en fait, on voit que l'accueil se fait aussi à l'égard du fils aîné en tant que tel. Est-ce que vous avez remarqué à l'écoute du texte biblique que finalement, le père l'invite à rentrer faire la fête, mais on ne sait pas quelle est la réponse. C'est un petit peu comme si Luc laissait les points de suspension et nous disait, trouve ta place toi en tant que lecteur et arrive à te situer et donne la réponse. Qu'est-ce que tu répondrais toi à l'invitation de ce père? Et c'est vrai, l'aîné, il était énervé. Il avait peut-être un petit peu cette impression que, finalement, ce cadet, c'était le chouchou de la famille, quoi. Je ne sais pas si vous vivez dans une fratrie de ce type-là où on fait des distinctions entre certains membres de la famille. Cette semaine avec Martine, la vendredi, on avait un entretien avec une femme de l'église d'origine antillaise dans une fratrie de 9 personnes. Et en fait, avec des différences d'âge. Mais il y avait un chouchou, enfin, en l'occurrence, une chouchou dans cette famille. Elle, c'était la petite dernière. Et encore maintenant, à plus de 30 ans, elle souffrait de ce traitement inégal de la part des parents. Et bien évidemment, tout ressurgit. Là, on l'accompagnait parce qu'elle venait de perdre son deuxième parent. Et en fait, elle souffrait de ces réalités-là. Et tous les souvenirs remontaient à la surface. Il fallait lui permettre de parler, de l'accompagner par rapport à cela. Comment accepter en tant que fils aîné la réintégration du frère cadet qui s'est si mal conduit sans remettre en cause finalement en tant que fils aîné tous nos principes, nos bons principes de bons travailleurs, fidèles, restant sous le toit de la maison paternelle, travaillant au service commun? Comment accepter de se remettre en cause? Et pourtant, le père aime les deux fils d'une manière inconditionnelle, de la même manière. Et cette parabole, c'est une histoire familiale. Durant nos camps familles, durant l'été, on en entend souvent des histoires comme ça, des histoires d'héritage, des histoires de tension, des histoires de division. Et dans nos familles, il y a ces réalités humaines-là. Comment s'impliquer? Comment trouver des solutions? Comment arriver à dépasser cela? Parce que finalement, on ne sait pas les âges, mais dans nos familles, il peut y avoir un esprit de sacrifice. On s'occupe du parent restant, alors qu'on voit les autres membres de la famille ne pas trop s'occuper du papa ou de la maman âgée qui est que. Et il y a toutes les culpabilités qui sont là, qui sont restantes. On peut s'imaginer toutes sortes de choses dans l'esprit du fils aîné. On peut s'imaginer aussi qu'autour de la table familiale, ce père évoque souvent ce cadet qui est parti. Et le fils aîné, il commence à m'énerver avec ce fils cadet. Il est parti, il a fait sa vie, il a pris l'argent et c'est fini. Non, le père l'apaise, le père essaie de le rencontrer et de l'amener à réfléchir à autre chose. Il y a une psychologue qui a dit concernant les valeurs du fils aîné que c'était travail, patrie, travail, famille, patrie. Ça, côté français, c'était les valeurs sous Pétain. La loi, les valeurs. Et là, on peut dire véritablement qu'il avait le souci de la morale, de la tradition, c'est ce qui le caractérisait. Mais en quelque sorte, c'est ce qui caractérise aussi les auditeurs de Jésus quand il raconte cette histoire. N'oubliez pas l'introduction, les pharisiens qui sont là, qui critiquent Jésus d'avoir été avec des gens de mauvaise vie. Alors, comment les différents commentateurs ont interprété les différentes attitudes? J'ai trouvé une interprétation visuelle pour vous montrer. Un tableau de Rembrandt. Vous connaissez peut-être cette illustration, ce que je vais dire. Je m'excuse, c'est une répétition pour vous. On voit dans ce tableau une représentation et finalement deux manières de voir Dieu. Il y a tout d'abord une réalité de séparation qu'il y a sur le tableau. Vous avez le Père, le Fils qui est accueilli. Vous avez debout derrière le Fils aîné, et vous avez des observateurs qu'on voit de manière plus ou moins claire et dans la pénombre en haut. Le fils aîné, c'est le Dieu de la loi, pensaient les pharisiens. Et de l'autre côté, vous avez, ça arrive, le Dieu de la grâce, l'accueil. Mais il y a aussi, quand on se penche de manière plus proche sur ce tableau, quelque chose d'assez intéressant. Vous avez sur ce tableau, regardez, observez les deux mains. Je fais un petit zoom. Vous avez une main très masculine et une main très féminine. Un petit peu comme si le Dieu cœur de père que l'on connaît, à qui on s'adresse, finalement avait ces deux attributs. Vous connaissez peut-être ce texte d'Ésaïe qui parle de la paternité et de la maternité de Dieu. Et ce Dieu qui accueille finalement le Dieu que l'on aime, le Dieu en Jésus-Christ, c'est ce Dieu-là. Ce Dieu qui prend soin de nous. Ce Dieu qui nous accueille véritablement. On aurait pu faire un zoom aussi sur la tenue, sur l'habillement du fils. Mais voilà, ce qu'a fait le fils cadet, effectivement, c'est choquant. Non pas le fait d'avoir quitté son père, mais finalement, dans le fait de ne pas avoir eu de projet de vie. Ah, c'est sûr que le fils aîné, il avait un projet de vie. Fidélité, tous les matins, debout à 7h, je finis à 17h le boulot, réglé comme du papier à musique, sa vie, voilà, construite, géniale. Tandis que la vie du fils cadet, pas d'horaire, je dépense l'argent, je vais avec qui je veux. Vous voyez un petit peu ce genre de choses? On se retrouve près dans des chocs interculturels, là. les histoires d'horaires, les histoires de style de vie. Dans des, à l'église de l'Oasis, en ce moment, on a 17 ou 18 nationalités différentes. Afrique, Asie, Inde, etc. Il y a une diversité pas possible, avec des gens qui viennent de l'islam, des gens d'arrière-plan catholique, toutes sortes d'arrière-plans. Et on essaye de faire cohabiter les formes de prédication, d'animation de louange, d'expression de la foi, avec cette diversité-là. Alors, c'est pas sur 700 personnes, hein, c'est une communauté de 70 personnes. Autant de diversité, il faut arriver à jouer avec cela. Et en fait, cet accueil de cette diversité, elle est importante parce que finalement, Dieu en Jésus-Christ doit être au-dessus de toutes ces réalités culturelles. Vraiment vivre qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni tamoul, ni laotien, ni cambodgien, ni suisse. Vous voyez ? Et en fait, l'essentiel, c'est le Seigneur qui nous unit. Une des choses qui m'a interpellé aussi, j'arrive bientôt à ma conclusion, une des choses qui m'a interpellé aussi, c'était l'attitude verbale du fils aîné quand il dit « ton fils ». Vous savez, quand ça va mal dans un couple, en général, avec les problèmes d'enfants, on dit « mais ta mère » ou « hein », vous voyez, c'est un petit peu le descriptif. Ben, le fils aîné, c'est exactement ce qu'il fait. Il dit pas « mon frère », « ton fils ». Et c'est touchant, c'est choquant de voir cette attitude-là. Et le père lui répond en disant « mais ton frère », ce que bien sûr le fils aîné ne veut pas du tout entendre. Et voilà, ça donne une relation qui est difficile, faite de jalousie, de culpabilité, de possession, de relations familiales perturbées. Et finalement, là, il y a quelque chose qui est très très fort, parce que finalement, ce fils cadet, quand il est revenu, il était cohérent dans son attitude de repentance. « J'ai péché contre le ciel et envers toi ». D'ailleurs, quand il revient, il n'arrive même pas à aller jusqu'à la fin de son discours, et qui était « traite-moi comme l'un de tes serviteurs, comme l'un de tes esclaves ». Du moment que je puisse manger, ça m'est égal. Je veux bien traiter, non pas comme ton fils, mais comme tes... Et le père, il l'accueille, il annule tout ça et il le réhabilite complètement. C'est pour cela que l'amour du père doit conduire finalement le fils aîné à considérer le cadet de nouveau comme son frère, et que cet amour paternel, qui est figure de l'amour de Dieu, doit être le chemin d'une fraternité retrouvée. Et c'est pour cela qu'il est bien que la parabole ne nous dise pas finalement ce que fait le fils aîné. Car à cette question, le fils aîné va-t-il se joindre à la fête? Comme je le disais tout à l'heure, la réponse à cette question, c'est à nous de la donner, à chacun d'entre nous. Car finalement, il peut y avoir en chacun d'entre nous cette attitude. Je suis fils aîné dans ma famille. Et en fait, en relisant ça, en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais quel est mon comportement finalement? Vous savez, dans une famille, on dit, peut-être pas dans la vôtre, que finalement les aînés ont été éduqués avec plus d'exigence que les suivants. C'est eux qui ont dû faire le chemin. Hein, toi, c'est vrai, hein, t'es d'accord. Hein. Mais voilà. Mais après, comment est-ce qu'on le vit? Le tout, c'est ça. Qu'est-ce qu'on intègre? Est-ce que ça nous passe dessus? Ou est-ce qu'après, on le vit dans l'amertume en disant, le huitième de ma famille, il n'y en a plus beaucoup des familles à huit, hein. Mais le troisième de la famille ou le deuxième de ma famille, c'était quand même plus cool pour lui et patati patata, quoi. Il était favorisé, quoi. Frères et sœurs, où est-ce qu'on en est dans notre relation? Je réalise avec le temps que les disciples de Jésus que nous sommes, finalement, au lieu de réaliser le parcours que nos frères ou nos sœurs font avec Jésus, finalement, on est assez prompt à juger le parcours des autres ou apprécier le parcours des autres, un petit peu comme le faisait le fils aîné à l'égard de son frère. Alors que finalement, la notion du temps, la notion de la patience, le fait de laisser Dieu agir dans les circonstances de vie, combien c'est si important. Dieu le Père sera toujours un Père ayant un amour inconditionnel pour chaque être humain. Car, nous dit la parole, le salut est pour quiconque croit. Même pour un homme qui aurait dilapidé son argent avec des prostituées qui viendraient à entrer dans notre communauté. Pourquoi? Parce que le lieu de l'Église doit être le lieu où finalement chacun devrait pouvoir venir tel qu'il est. Viens tel que tu es. Vous connaissez ce slogan de McDo? C'est ça l'idée. Non pas que l'Église soit un lieu de consommation, mais on devrait en tant que chrétien, en tant que non-chrétien, arriver dans un lieu de culte et de pouvoir venir et d'être accueilli comme une créature de Dieu, donc créature de Dieu, c'est au-dessus de toute chose, et de pouvoir cheminer sans un esprit de jugement, d'appréciation, de cheminer dans cette découverte de qui est l'Évangile. Être accueilli Être aimé, être entouré, être amené à la connaissance de Dieu, c'était l'attitude de ce Père. Et n'est-ce pas là, finalement, par excellence, la définition de la grâce, un don qui coûte tout au donneur et rien au receveur. Et cette attitude de grâce nous apprend que Dieu aime en raison de ce que Dieu est et non en raison de ce que nous sommes. Et c'est chacun de nous de décider. Il est possible de répondre à l'amour inconditionnel de Dieu malgré les préjugés que nous avons peut-être construits dans une attitude de dévouement total. Il y a eu dans nos églises de nombreuses histoires de familles qui ont eu des vécus assez identiques finalement à cette histoire. Histoire d'argent, histoire de vie dissolue, de tensions familiales, et toutes les histoires ne se sont pas finies en repentance et en retrouvailles, malgré la connaissance commune de Dieu. Et ça m'interpelle. Conclusion très pratique. De quel côté du tableau vous vous trouvez ? Est-ce que vous vous trouvez du côté du Père qui aime, accueille et pardonne ? C'est un peu comme dans les jeux de famille, hein. Le Père qui... Non, c'est pas ça. Un Père humain qui accueille, un Père humain qui aime, un Père humain qui pardonne. Est-ce que vous vous trouvez du côté du Fils qui revient avec une attitude de repentance ? En tout cas, si dans nos démarches de repentance, celles-ci sont parfois difficiles parce qu'on ne sait pas de quelle manière on va être accueilli par la personne à qui on va demander pardon, sachez que quand on s'approche du Dieu Père, lui nous accueillera toujours. Point. Il n'y a même pas besoin de se poser la question, il nous accueillera toujours. Est-ce que l'on se trouve dans l'attitude du fils aîné qui regarde plein d'amertume ? Est-ce qu'on se retrouve dans l'attitude des spectateurs de la vie de nos frères ? Et puis si l'on parle en termes relationnels, comment considérons-nous Dieu ? Quelle image avons-nous de lui ? Est-ce que nous avons l'image d'un Dieu sévère, un Dieu injuste ou un Dieu inconditionnel vis-à-vis de chacun de nous, quelle que soit notre histoire ? Si on croit en un Dieu sévère, un Dieu injuste, comme le fils aîné, sachez que c'est votre droit, c'est votre liberté. Mais c'est pas ce que la Bible nous dit concernant Dieu. Et que finalement, il faut peut-être réapprendre à considérer qui est Dieu en ayant une lecture renouvelée de la parole sous cet angle-là. Ma prière, et je vais finir là-dessus, que le Saint-Esprit guérisse les cœurs des parents qui ont spirituellement parlant, perdu un enfant. Je crois que ça doit être une action de Dieu, avec le soutien de l'Église, mais on a besoin de l'action du Saint-Esprit, un esprit de guérison, pour nous amener finalement à vivre cela. Que le Saint-Esprit aussi ramène auprès du Père, avec un P majuscule ou un P minuscule, les enfants qui se sont perdus. Et que le Saint-Esprit convainc de péché les fils aînés qui se croient justes, entre guillemets, et qui n'ont pas compris l'amour inconditionnel du Père. Et que le Saint-Esprit, je finis par nous, les Pères, que le Saint-Esprit nous donne à nous les Pères un amour inconditionnel comme le Père de cette parabole. Je vous invite à la prière. Seigneur, on veut te remercier pour ce texte, pour cette parabole que nous avons pu revisiter ensemble. Seigneur, je te prie de toucher notre cœur. On a besoin de toi, on a besoin d'une pensée renouvelée, d'une intelligence renouvelée. Nous avons besoin d'avoir des cœurs, des sentiments renouvelés dans notre relation aux autres et peut-être dans notre relation aux membres de notre famille et peut-être en particulier de nos enfants, quel que soit leur âge. Alors on veut te demander cette grâce, Seigneur, en cet instant, que tu nous visites par ton Saint-Esprit et que tu nous donnes d'avoir des cœurs bien disposé. Seigneur, merci pour cela. Merci de nous aider. Merci de ton soutien. Merci de la présence de nos frères et sœurs aussi qui sont là pour prier pour nous encourager et non pas pour nous juger. Seigneur, on veut vraiment dépendre de toi, vivre pour toi et on veut vraiment que notre vie de famille t'honore. Alors mets toutes choses en place dans notre existence, Seigneur. On a besoin de toi, on veut être dépendant de toi, toi le Dieu de grâce. Et on bénit ton nom pour toute chose que tu vas nous donner, pour tout don parfait que tu veux nous accorder. Et on te le demande en ton nom. Amen.
Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir.